これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le gay savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la lecture, Georges Kless.
Et à la réalisation, Luc Jean Reno. Pourquoi diable faire compliqué quand on peut faire simple? Eh bien parce que c'est plus facile. Comme il est plus facile de fuir le bonheur que d'être heureux. Un genre de vie simple est chose difficile. Il y faut beaucoup plus de réflexion et d'inventivité que n'en ont les gens même très intelligents. Ce paradoxe majeur, ce paradoxe de la simplicité est au fond l'unique propos de Bergson dans le texte extraordinaire que nous allons lire aujourd'hui ensemble, qu'on trouve dans La pensée et le mouvant, et qui s'intitule « L'intuition philosophique ». Un texte qui, quand on l'a lu, ne change pas la vie, mais jette une ombre, et comme un doute, sur tous les moments où elle donne le sentiment de se compliquer à l'extrême.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Comme cela est simple et clair, comment ai-je pu ne pas le savoir avant? Ces quelques mots échappent au comte Bezoukhov, héros de guerre et paix, alors qu'il rêve à la vie. C'est une belle façon de parler de l'intuition philosophique telle que la conçoit Bergson. L'intuition fait l'expérience de la simplicité du monde. Et pour Bergson, la simplicité, c'est le contraire, ou plutôt le meilleur remède à toute simplification. C'est pourquoi la simplicité est un air difficile, mais qu'il ne faut jamais, jamais désespérer d'atteindre.
Ah, c'est bien écrit ça. Vous avez raison de parler comme ça.
Merci, merci.
Mais je vous en prie. Alors du coup, on va commencer différemment. Tiens, comme je ne savais pas ce qu'il y avait dans votre chapeau, je vous propose qu'on commence par le tout début de l'intuition philosophique, Paola. Le moment où il dit... je le lis rapidement, c'est quelques lignes. « Il me semble que la métaphysique cherche en ce moment à se simplifier, à se rapprocher davantage de la vie. » Je crois qu'elle a raison et que c'est dans ce sens que nous devons travailler. Mais j'estime que nous ne ferons par là rien de révolutionnaire. Nous nous bornerons à donner la forme la plus appropriée à ce qui est le fond de toute philosophie. Je veux dire, de toute philosophie qui a pleine conscience de sa fonction et de sa destination, car il ne faut pas, écoutez ça, que la complication de la lettre fasse perdre de vue la simplicité de l'esprit. Qu'en pensez-vous?
Mais il faut rappeler que c'est une conférence que c'est prononcée à l'oral et que peut-être pour cela, ça explique que Bergson utilise un petit peu indifféremment simplifier, donc simplification et simplicité.
Ah peut-être, peut-être. C'est le fait que ce soit une conférence. Peut-être tout simplement qu'il présumait chez ses auditeurs un sens de la nuance, qu'ils avaient
oui.
peut-être d'ailleurs. Hein, parce bien. Que vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point, d'autant que Bergson les emploie ici indifféremment. Il y a une différence fondamentale à faire, et personne nous aide à la faire, et elle est majeure dans l'existence, entre simplifier, c'est-à-dire résumer, affadir de fait, simplifier, que voulez-vous, affadir, endormir la complexité, et parler simplement. Le fait de parler simplement permet de préserver une complexité que le fait de la simplifier, une complexité soluble, pour le coup, dans le fait de la simplifier. Faire simplement de la philosophie est une chose naturelle, dit Bergson, de sorte que tous ceux qui disent, oui, et d'ailleurs encore aujourd'hui, et même surtout aujourd'hui avec cette histoire de mode de la philosophie, où on veut que la philosophie devienne accessible comme si elle ne l'était pas déjà. Immense malentendu sur la philosophie. La philosophie n'a pas à devenir accessible, elle l'est. Elle l'est si on a les bons outils pour ça. Elle l'est pleinement, c'est-à-dire que ce n'est pas un digest. On n'est pas là pour faire de la philosophie en basket, si vous voulez. La philosophie, telle qu'en elle-même, est accessible par définition. Il suffit d'en parler simplement et non pas de la simplifier. Il y a deux péchés. Pour Bergson, enfin deux péchés, disons deux fautes, hein, parce que le lexique du péché n'est pas tout à fait le sien. Il y a deux péchés qui tiennent dans cette phrase. Il dit « À ne tenir compte que des doctrines une fois formulées, de la synthèse où elles paraissent alors embrasser les conclusions des philosophies antérieures et l'ensemble des connaissances acquises, on risque de ne plus apercevoir ce qu'il y a d'essentiellement spontané dans la pensée philosophique. » Quelles sont les fautes ici? C'est le « une fois formulé ». très important, le « une fois formulé », parce que ça veut dire quoi ? C'est une pensée de l'après-coup, c'est une pensée de l'après-midi, c'est la nature naturée, si vous voulez, c'est le monde vu sous l'angle de ce qu'il a été, de ce qu'il a produit, des objets, une fois qu'ils existent. C'est un texte écrit qui répond toujours la même chose aux questions qu'on lui pose, c'est un rapport d'extériorité ou de représentation à l'endroit des objets que l'on pense. C'est ça le « une fois formulé ». Tenir compte des doctrines une fois formulées, c'est s'attacher à ce qu'elles ont donné d'elles-mêmes, au fond, et sacrifier leur émergence, leur nativité, leur potentiel natif au résultat fatalement décevant qu'elles ont donné. Et l'autre faute, c'est la synthèse. C'est la synthèse, c'est-à-dire embrasser les conclusions des philosophies antérieures et l'ensemble des connaissances acquises. C'est la synthèse, c'est l'ambition démiurgique de tout enfermer, tout résumer, tout médier. C'est une hausse systématique. Au fond, derrière ça, il y a une critique de Hegel, dans l'esprit de Bergson. C'est une critique de Hegel, on dit de Hegel et non pas d'Hegel d'ailleurs. C'est une critique de la philosophie comme un exercice de conciliation, de réconciliation. Parce que si la philosophie fait la paix entre les individus, si elle permet aux êtres de faire la paix entre eux, c'est parce qu'elle assume leur rupture, elle assume leur différence. Quand elle prétend mettre tout le monde d'accord, elle le fait toujours au profit de l'un d'entre eux, en l'occurrence Hegel, qui considère que la philosophie est un long chemin ardu qui mène jusqu'à lui, si vous voulez, et qui s'est déguisé en esprit absolu. Alors, quel est le remède à cette double tentation, aux pensées de l'après-midi et aux pensées synthétiques ? Qu'est-ce que c'est ? Quel est le remède ? Eh bien, c'est la spontanéité, selon Bergson, qui est un mot d'une extrême richesse, Paola.
On en parlait lorsque vous disiez que spontanéité, c'était à la fois improvisation et réactivité.
Oui, c'est ça, c'est ça. Disons, c'est un mélange de nécessité. Si je lève la main pour vous taper dessus, Dieu préserve, vous allez avoir le geste de vous défendre, vous allez lever les bras pour parer le coup que vous n'avez pas vu venir ou vous n'avez pas pressenti. Bon, c'est un réflexe que vous aurez spontanément et vous l'aurez en réponse à un geste de ma part. Mais dans le même temps, si je dis de vous que vous êtes spontané, par exemple, oui, c'est une jeune fille, elle est spontanée, vous voyez, c'est une espèce de dânerie qu'on peut dire sur les gens parfois. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit de quelqu'un qu'il est spontané ? On dit qu'il est non seulement original, mais originel. Et ça, c'est le grand paradoxe de la spontanéité, qui emprunte aux deux registres, de la réaction et de l'originalité. C'est-à-dire du fait d'être premier, d'être en un sens inaugural. Et la philosophie, selon Bergson, elle est l'un et l'autre. Bergson est un grand historien des idées, mais l'histoire telle qu'il la raconte n'est pas une histoire linéaire, c'est une histoire souterraine, au gré des reprises spontanées d'un thème identique. Il s'agit au fond, voyez, vous avez d'un côté la spontanéité, de l'autre côté l'artifice. La spontanéité est un ordre chaud, vivant, vivace. L'artifice est un ordre réchauffé. Et c'est comme si notre vie tout entière, qui est encombrée de reconstitutions, de systèmes, d'ordonnancements parasitaires, au fond disparaissait sous cet entassement de logique et rendait impénétrable la signification profonde de ce que Bergson appelle la liberté, qui est justement la spontanéité, c'est-à-dire une vraie vie, non pas une seconde vie, non pas une vie rétrospective, toujours en retard sur la vie vraiment vécue, mais une vie qui est pleinement la contemporaine d'elle-même.
Et qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il parle d'une tendance, enfin, un petit peu avec un ton prophétique, hein, il dit « elle tend à se simplifier, mais nous ne ferons rien de révolutionnaire ». C'est aussi alors,
ce qui est révolutionnaire dans son propos, c'est de dire qu'il n'y a rien de révolutionnaire dans le fait de simplifier. C'est-à-dire de parler simplement ici, c'est ça qu'il faut entendre. Ce qui est révolutionnaire dans son propos, c'est de considérer que ça n'est pas du tout une révolution de rendre la philosophie accessible. C'est au contraire renouer avec l'essence même de la philosophie. C'est non pas seulement parce que la philosophie a vocation à sortir des murs de l'école et à se transmettre à tous, mais parce que la philosophie est aussi simple que la vie au fond. Et c'est la grande leçon de Bergson. C'est-à-dire, et les difficultés de la philosophie tiennent autant à son lexique qu'à cette extrême simplicité qui est proprement indicible. On va en parler aujourd'hui. Cette simplicité qui n'est pas dissible. Mais Pour vous donner un exemple très simple de ça, un exemple qu'on a déjà pris peut-être, mais qu'il est vraiment facile de comprendre. Si vous faites une déclaration d'amour à quelqu'un, vous n'allez pas lui dire « je t'aime parce que t'es beau, t'es riche, t'es jeune, ou t'es vieux, t'es moche, t'es pauvre », peu importe. Vous n'allez pas donner de raison à l'amour que vous portez à quelqu'un. Les raisons qu'on donne à l'amour sont des illusions rétrospectives. Ça ne marche pas comme ça. On aime parce qu'on aime. Et on trouve à celui ou à celle qu'on aime des qualités parce qu'on l'aime. Ça n'est pas parce qu'elle a ou il a des qualités qu'on l'aime. C'est parce qu'on l'aime qu'on lui trouve des qualités ou qu'on surmonte les défauts et qu'on va jusqu'à aimer ses défauts. Chercher des raisons à un amour, c'est le mettre en danger. Si vous dites à quelqu'un « pourquoi m'aimes-tu » et qu'il s'aventure à vous répondre, c'est que l'amour bat de l'aile. La spontanéité est là. Elle est à la fois réflexe parce que l'amour qui élit une élection massive et indivise, comme dit Jean Kelevitch, qui élit quelqu'un d'autre, est un amour consécutif à la rencontre avec quelqu'un d'autre. Mais dans le même temps, le fait d'aimer, la décision d'aimer, elle est inaugurale. Et vous voyez que le mot de spontanéité s'applique à la fois à cette réaction à la rencontre de quelqu'un. Je le vois, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'éleva, dans mon âme est perdue, youpi. Bon. Et en même temps, l'amour que je porte à cette personne est un amour qui se passe de causes. En vérité, les causes que je lui donne ne sont que les prétextes que je lui trouve, mais l'amour est le fait premier. Et c'est ça qui est formidable chez Bergson, c'est qu'il permet de penser cela. Et alors, dans ce texte fabuleux, vraiment fabuleux, qu'on appelle l'intuition, qui s'appelle l'intuition philosophique, cette conférence extraordinaire, où est-ce qu'il l'a donnée déjà? En Norvège, je crois, non?
À Bologne.
À Bologne, pardon. Oui, c'est une autre. 1900. C'est une autre en Norvège. C'est une autre dont on parlera aussi. dans ce texte extraordinaire, Bergson parle au fond de l'amour qu'on porte à un philosophe, c'est-à-dire à un système ou à une pensée qui nous précède. Et un système philosophique, dit-il, semble d'abord se dresser comme un édifice complet, une architecture savante où les dispositions ont été prises pour qu'on y pût loger commodément tous les problèmes. Et nous éprouvons, à le contempler sous cette forme, une joie esthétique, renforcée d'une satisfaction personnelle. Mais en réalité, celui qui voit ça ne voit pas grand-chose.
Il voit de l'extérieur.
Oui, il voit de l'extérieur. Il voit du côté de la synthèse. Il a produit une synthèse plus ou moins originale ou exhaustive, des idées au milieu desquelles un philosophe a vécu. C'est une mauvaise méthode. C'est un peu comme... Vous savez, c'est dans le... Vous avez vu le Cercle des poètes disparus?
Oui, pour une fois.
Ce si beau film où Robin Williams... Robin Williams, donc Good Morning Vietnam, quoi. Enfin, Robin Williams joue le rôle d'un professeur d'anglais dans un collège anglais magnifique. C'est un professeur extraordinaire qui commence en faisant la critique d'un manuel qui est une sorte de Lagarde et Michard local, qui recommandait d'étudier les textes selon deux diagrammes, le diagramme de l'émotion et le diagramme de la sensibilité, ou je ne sais plus exactement. Enfin, il rangeait les textes comme on crée une fonction, si vous voulez, Y égale mx plus p, appliqué à des textes de littérature, à Shakespeare par exemple. Et le premier cours du professeur Keating, il s'appelle Keating, tiens, c'est une réminiscence. Le professeur Keating, rendons un hommage à Keats, le premier cours, il invite tous ses élèves à déchirer ces pages à la con qui prétendent embrasser et encadrer l'amour d'un texte ou expliquer au fond les raisons pour lesquelles nous aimons un texte. Non, on aime un texte parce qu'on le lit, donc on réagit au texte qu'on lit spontanément. Et dans le même temps, c'est spontanément que nous l'aimons, c'est-à-dire séparément de toute autre chose et de manière tout à fait inaugurale. Ce paradoxe de la spontanéité, on n'en sort pas. Et vous avez, pour finir là-dessus, Paola, parce que j'ai envie de le dire et de lui rendre hommage, vous avez un élève de Bergson qui a compris ça merveilleusement. Pour le coup, ce n'est pas Jean Kelevitch, c'est...
Gerfagnon.
C'est Gerfagnon, bien sûr. C'est Gerfagnon. Quel est le génie de Gerfagnon? Gerfagnon disait de lui-même qu'il n'était pas philosophe. Comme tous les philosophes, il disait qu'il n'était pas philosophe. Et qu'il était simplement historien des idées. Mais la façon qu'il avait d'être l'historien des idées, c'était, alors que c'était l'homme le plus érudit de son temps, c'est l'homme le plus érudit que j'ai jamais rencontré, Lucien Gerfagnon, qui nous a quittés il y a peu de temps, c'est l'homme le plus érudit que j'ai jamais rencontré. Personne ne parlait mieux de Saint-Augustin, de Plotin, de Bergson, de Jean Kelevitch, que lui. En même temps, je le cite, « Quand on sait tout sur l'auteur, on ne sait rien encore de l'auteur, car le plus délicat reste à faire. » Accommoder son regard à l'apparition brève et qui n'a lieu qu'une fois. Ce que je veux vous dire, c'est que la véritable difficulté chez cet érudit extraordinaire n'était pas de rassembler les informations et de les mettre en ordre, parce que ce travail préparatoire est à la portée du premier biographe venu. Non, la vraie difficulté, c'était, citation, « de s'accorder pour un temps à cette conscience fugace qui a quelque chose à nous dire, une seule chose, et que personne ne dira plus. D'éprouver les pulsations d'un cerveau sous les contours d'un système, d'épouser la pensée d'un maître en la caressant quand même. » Ça, c'était Gerfagnon. Si c'était un grand historien des idées, et si il rendait les philosophes si accessibles, comme on dit, ce mot est affreux, s'il rendait les philosophes si accessibles, c'est parce qu'il nous les donnait à sentir, de l'intérieur. C'était le contraire du Lagarde et Michard, si vous voulez. C'est le Gerfagnon. Et il faudra lire et relire et se promener dans la façon dont Gerfagnon raconte les philosophes, parce que non seulement on a des informations, imparables, impeccables, mais en même temps, on a la sensation des philosophes dont il parle. Et ça c'est extraordinaire. C'est un homme qui n'a cessé de constater l'échec qu'il y avait à faire le tour d'une pensée. Parce que pour comprendre une pensée, il faut s'installer résolument en son centre. Il faut sauter dedans, si vous voulez, mettre les deux pieds dedans. C'est pour ça qu'il faut être bergsonien quand on parle de Bergson, kantien quand on parle de Kant, spinoziste quand on parle de Spinoza. Il faut épouser tout ça. Il faut l'aimer. Il faut le vivre de l'intérieur. Il faut éprouver ce que Bergson appelle un contact souvent renouvelé avec la pensée du maître, une imprégnation graduelle. On écoute Georges nous
le dire. On écoute Georges Claes.
Allez.
Un contact souvent renouvelé avec la pensée du maître peut nous amener, par une imprégnation graduelle, à un sentiment tout différent. Je ne dis pas que le travail de comparaison auquel nous nous étions livrés d'abord était du temps perdu. Sans cet effort préalable pour recomposer une philosophie avec ce qui n'est pas elle, et pour la relier à ce qui fut autour d'elle, nous n'atteindrions peut-être jamais ce qui est véritablement elle. Car l'esprit humain est ainsi fait. Il ne commence à comprendre le nouveau que lorsqu'il a tout tenté pour le ramener à l'ancien. Mais à mesure que nous cherchons davantage à nous installer dans la pensée du philosophe, au lieu d'en faire le tour, nous voyons sa doctrine se transfigurer. D'abord, la complication diminue, puis les parties entrent les unes dans les autres. Enfin, tout se ramasse en un point unique dont nous sentons qu'on pourrait se rapprocher de plus en plus, quoi qu'il faille désespérer d'y atteindre.
Là, Bergson nous installe directement dans une philosophie de la sympathie. Oui. C'est lui qui reprend souvent le mot sympathie.
C'est même plus que de la sympathie, c'est de l'empathie. Hein, c'est souffrir à l'intérieur. Là. C'est même pas seulement souffrir avec, comme une solidarité bien comprise, qui est déjà souhaitable. Là, c'est presque de l'empathie. On se situe résolument à l'intérieur d'une pensée. Je me souviens des cours quand j'avais votre âge, Paola, des cours de Jacques Darjula. Et Jacques Darjula, un jour, nous a fait quelque chose. C'était un cours sur Pascal, et il nous parle du jeu du dictionnaire. Le jeu du dictionnaire, c'est si vous allez à bateau, par exemple, vous aurez grande barque. Si vous allez à barque, vous aurez petit bateau. De sorte que le dictionnaire, dit-il, était comme un arbre de porphyre qui ne cesse de renvoyer à d'autres mots et qui en donne la définition, mais qui serait bien en peine de nous en donner le sens. Et j'étais grisé à l'époque, on était tous comme des cagneux, des hypocagneux, grisés par ce genre de paradoxe. Et Jacques, à un moment, a eu la sagesse de dire, mais en fait, le sens, le cercle du sens, il faut sauter dedans, il faut s'y situer de plein pied. Et ce qui est une vérité pascalienne, profondément pascalienne, et qui est une vérité de Bergson, à mesure que nous cherchons davantage à nous installer dans la pensée du philosophe au lieu d'en faire le tour, nous voyons la doctrine se transfigurer.
Juste quelques mots rapides. Enfin, tout le monde
prenez votre temps.
Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir Jacques Darjula en professeur en Cagne, mais heureusement, il a eu la générosité de mettre tous ses cours sur Internet.
Vous avez absolument raison, jdarjula.net.
Voilà.
Et le cours en question, comme Jacques écrit la totalité de ses cours, Le cours en question sur le mémorial de Pascal se trouve sur Internet, c'est un trésor.
Voilà, l'occasion de lui dire merci encore une fois.
C'est vrai, absolument, disons-lui merci. Revenons au texte, hein, Paola. Hein. L'idée qu'on s'installe dans la pensée d'un philosophe est que sa doctrine se transfigure à mesure qu'on s'y installe. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous voyez comment ça fonctionne, ça?
Oui, personnellement, avec Jean Kelevitch, qui a été ma porte d'entrée vers Bergson, Jean Kelevitch a parfois un jargon qui est compliqué, mais quand on le prend par empathie, vraiment, qu'on n'hésite pas, qu'on y va aveuglément, tout d'un coup, les mots s'éclairent
ce que vous décrivez là est une acclimatation à la pensée philosophique qui, pour le coup, nous y conduit vraiment. Oui. Et beaucoup plus sûrement que la simplification, dites-moi.
Oui, mais c'est étrange que ça le fasse avec certains philosophes. Il y a des philosophes dont le jargon me reste totalement obscur.
Ça n'est pas la raison qui proteste, Paola, c'est l'épiderme. On lit avec son corps. On lit avec son cœur, on réfléchit avec son cœur. C'est la grande leçon de Bergson, héritier de Pascal en cela. C'est avec le cœur qu'on lit. Que voulez-vous? Si vous n'êtes pas kantienne ou pas hegelienne, vous le sentirez moins. Il y a des philosophes, Spinoza le premier d'entre eux par exemple. On va en reparler de Spinoza là aujourd'hui, mais Spinoza le premier d'entre eux. L'éthique de Spinoza est un livre d'une extraordinaire difficulté. Quand on l'ouvre, c'est-à-dire quand on est inévitablement, quand on ouvre ce livre, on n'entre pas dedans quand on l'ouvre. Au contraire, on entre dehors. L'ouvrir, c'est le voir de l'extérieur, vraiment, pleinement. Et alors, on a ce jargon géométrique totalement incompréhensible qui nous éloigne du texte, qui nous rebute. Et il y a un moment, je le dis d'expérience, et c'est une expérience que j'aimerais donner à partager, il y a un moment où ce qui semble si abscond devient une allée de lumière. Ce qui nous semblait une frontière, soudain, est dissipé, sans nous en apercevoir. Vous savez, à la façon dont, si vous êtes plongé dans un livre, c'est la fin de l'après-midi, vous êtes plongé dans un livre et vous ne voyez pas la nuit tomber. Vous sortez de votre lecture, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de lumière pour lire le texte que vous avez sous les yeux, mais vous n'avez pas vu le soleil se coucher, vous n'avez pas vu la nuit tomber, vous n'avez pas vu le passage, vous l'avez éprouvé. Vous n'étiez pas de l'extérieur, vous étiez dans l'intérieur, vous étiez dans le temps. Dans le temps, au sens proustien, bergsonien du terme. Vous étiez dans le temps. Et ce qui vous semblait une frontière, parce que vous étiez extérieur, que vous regardiez le coucher de soleil, la ligne de l'horizon sur laquelle le soleil s'enfonce, etc., ce moment-là, ce moment incompréhensible, ce passage qu'on peut mesurer et qui en même temps est un changement qualitatif, ce passage quantitatif qui est qualitatif, est incompréhensible tant qu'on le regarde de l'extérieur. Mais quand on le vit, quand on l'éprouve de l'intérieur, et rien n'est plus simple, il suffit d'être pris par quelque chose. Eh bien, on l'éprouve, on ne le sait plus, on le vit, on le sent. Et les philosophies, c'est pareil.
Je ne dis pas que le travail de comparaison auquel nous nous étions livrés d'abord ait été du temps perdu.
Ah oui.
Voilà.
Oui, d'accord.
Vous voulez pas que je promette.
Je vous vois venir avec vos sabots. Non, vous avez raison, oui. Du temps perdu, oui. Vous savez que Proust se défendait d'avoir lu Bergson. Hein. C'était son petit cousin par alliance. Mais il se défendait de l'avoir lu tout simplement parce qu'il ne voulait pas qu'on rabatte son livre sur une thèse. Il considérait qu'un livre à thèse, c'était comme un cadeau dont on laisse le prix. Donc il se défendait d'avoir lu Bergson ou de s'être à ce point imprégné de Bergson. Mais en réalité, Proust et Bergson ce sont des jumeaux. Faut arrêter de tourner autour du pot. Il y a des différences, mais ce sont des jumeaux. Je veux dire, rien n'est plus bergsonien déjà que le refus d'être assigné à une doctrine ou à une thèse. Bon, donc rien qu'en se défendant d'être bergsonien, il est bergsonien. Rien qu'en se défendant d'être l'élève d'une thèse, il est l'élève de cette thèse, puisque c'est une thèse qui enseigne à chacun de n'avoir cure que de soi-même, au fond, pour le suivre. Proust et Bergson, qu'est-ce que vous voulez, ils ont en commun le fait que nous possédons tous nos souvenirs, sinon la faculté de nous les rappeler. Ils célèbrent une beauté sans artifice, l'un et l'autre. Ils reprochent l'un et l'autre à l'intelligence, ce que Bergson appelle une incompréhension naturelle de la vie. Parce qu'effectivement, l'intelligence est une modalité de la représentation qui nous situe à distance du spectacle, qui produit un spectacle. C'est-à-dire un spectacle, c'est ce qu'on a à distance, c'est ce qu'on regarde, ça n'est plus ce qu'on vit. À la façon dont un touriste va à Venise et va dans un restaurant où il y a des gondoles, si vous voulez. Pourquoi est-ce qu'un touriste qui va manger dans un restaurant avec des gondoles sur le mur a l'impression d'être pris pour un pigeon? Pourquoi? Et il a raison. Pour quelle raison? Parce que on a transformé une expérience, être dans une gondole, comme le narrateur avec sa maman d'ailleurs à Venise, le narrateur de la recherche. On a transformé une expérience en gimmick touristique, en spectacle. On a spectacularisé l'expérience. Dans la société du spectacle, nous avons dissous l'expérience que nous pouvions faire du monde. Et au fond, en revenir à Bergson, c'est reconquérir le terrain perdu par l'expérience et transformer en spectaculaire. C'est-à-dire, c'est remplacer le sentiment d'être, je ne sais pas moi, dans la légende de Paris en allant déjeuner au Café de Flore, vous voyez, avec la quatrième de couverture de son menu qui raconte comment Cocteau et Tristan Tzara s'envoyaient des œufs à la figure, enfin bon, des choses comme ça. C'est remplacer ce sentiment, cette espèce de gadget touristique, par l'expérience que l'on peut faire d'aller dans un café qui ne met pas en scène sa propre histoire. C'est regagner du temps. C'est regagner du temps sur le temps perdu de la mise en spectacle de nos existences. Or, c'est là, on dit, l'actualité d'un texte. Cette expression est absurde, en particulier en ce qui concerne Bergson. Mais c'est assez intéressant à l'ère du tourisme intégral. C'est-à-dire à l'ère de la spectacularisation de toute chose, de la mise en spectacle de toute chose, du genre on va aller voir un spectacle typique japonais, à l'ère touristique. À l'ère touristique, Bergson enseigne à vivre les choses au lieu de se représenter soi-même les vivants. Voyez, c'est le contraire du touriste qui, par exemple, à qui un tour opérateur propose de faire une ville par jour. Vous voyez, c'est le contraire de ça. Il s'agit de rentrer dans les choses, de ne pas être à leur surface, de ne pas les regarder selon l'idée qu'on en a et de ne pas les vivre selon l'idée qu'on en a. Idée, étiquette qui a été savamment arrangée par les professionnels du tourisme qui veulent vous proposer une expérience authentique, c'est-à-dire un menu touristique. De toutes les phrases de Bergson, je pense que celle qu'il préférait était la suivante. « En ce point est quelque chose de simple, d'infiniment simple, de si extraordinairement simple, que le philosophe n'a jamais réussi à le dire, et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. »
Voilà.
« Et à la fin, quand nous découvrirons cette simplicité, dit-il, nous nous demanderons comment se fait-il que nous n'y avions pas pensé plus tôt. » Extraordinaire, ce moment.
C'est la voix de Lucien Gerfagnon qu'on vient d'entendre.
Oui, c'est la voix de Lucien Gerfagnon. C'est un cadeau aux auditeurs. C'est une émission que j'avais eu l'honneur d'animer il y a de cela 10 ans. Dans une série sur Vladimir Jankélévitch, Lucien Gerfagnon était venu avec Elisabeth de Fontenay et Frédéric Worms pour parler d'une thématique qui était la beauté du geste. Et la discussion allait son chemin. Frédéric Worms était l'impeccable pédagogue que l'on connaît. Elisabeth de Fontenay était vibrante d'émotion, parlait de Jankélévitch comme d'un russe qui a pour habitude de boire un verre de vodka, enfin pas lui, mais dont la philosophie est comme un verre de vodka qu'on boit avant de jeter le verre derrière l'épaule. Et soudain, la voix de Lucien, qui n'avait pas dit grand-chose jusqu'ici, s'est élevée pour réciter ce vers, cet alexandrin de 35 pieds de Henri Bergson, qu'on trouve donc dans l'intuition philosophique, un vers qu'il faut rappeler, qui vient juste à la suite du texte qu'on a entendu tout à l'heure. « En ce point est quelque chose de simple, d'infiniment simple, de si extraordinairement simple, que le philosophe n'a jamais réussi à le dire, et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. »
Il ne pouvait formuler ce qu'il avait dans l'esprit sans se sentir obligé de corriger sa formule, puis de corriger sa correction. Ainsi, de théorie en théorie, se rectifiant alors qu'il croyait se compléter, il n'a fait autre chose, par une complication qui appelait la complication et par des développements juxtaposés à des développements, que rendre avec une approximation croissante la simplicité de son intuition originelle. Toute la complexité de sa doctrine, qui irait à l'infini, n'est donc que l'incommensurabilité entre son intuition simple et les moyens dont il disposait pour l'exprimer.
Lorsque Bergson, pour exprimer l'intuition qu'il a eue, est-ce qu'on peut penser par exemple que le peintre ou le musicien a plus les moyens appropriés pour exprimer ?
C'est peut-être d'ailleurs la seule différence recevable entre l'art et la philosophie. C'est qu'il y a une célérité supérieure dans une discipline artistique, objectivement artistique, que dans une discipline qui emprunte malgré tout les moufles du concept. pour cheminer vers l'indicible. C'est peut-être, vous savez, pour Hegel, la religion doit succéder à la philosophie. J'ai tendance à penser, en toute humilité, que c'est la poésie qui doit succéder à la philosophie. C'est-à-dire que si la philosophie s'abolit quelque part, c'est le moment où elle abolit, non pas le langage lui-même, mais la complexité, la conceptualité, l'intelligence qui est à l'œuvre dans le langage qu'elle met en œuvre, au profit d'une dimension purement intuitive, ce qui, en poésie, prend la forme d'une métaphore, par exemple, qui permet de concentrer une somme incalculable, littéralement infinie, d'informations dans un nombre fini de mots, qui permet de comprendre que 26 lettres permettent de former des phrases en nombre infini, qui permet aussi de comprendre qu'une vie finie, c'est-à-dire provisoire, est l'occasion, l'écrin d'un diamant qui ne meurt pas avec celui qui lui a donné le jour. C'est la même affaire. Et on peut considérer que la poésie, par la grâce de la métaphore, la musique ou la peinture nous sortent au fond du bavardage. Nous sortent au fond du bavardage auquel la philosophie emprunte trop souvent son propre lexique. Et d'ailleurs, ce qui produit l'inconvénient de ces difficultés, de ces jargonnages qui éloignent opportunément les gens. Une chose quand même, si la philosophie rebute par son aspect un peu revêche, un peu technique, un peu conceptuel, c'est à la fois par cet aspect revêche, technique et conceptuel, mais c'est aussi parce que cet aspect revêche, technique et conceptuel permet de ne pas entendre. Ça permet de ne pas entendre ce qu'on est en train de lire. Or, ma vie a changé. Le jour où j'ai compris l'existence de pédagogue, si vous voulez, a été bouleversée. Le jour où j'ai compris que dans le fait de dire que la philosophie jargonnait et qu'on n'y comprenait rien, il n'y avait pas seulement l'aveu d'une impuissance intellectuelle, si vous voulez, ou d'un défaut technique qui ne nous donne pas les moyens d'accéder à ce savoir. Il y avait aussi une volonté de ne pas entendre ce qu'on avait entendu en lisant les textes. Et au fond, le travail de pédagogue, le travail d'enseignant et les centaines de professeurs de terminale et au-delà qui agissent en France et qui font un métier merveilleux, savent ça. Le travail du pédagogue, c'est de donner à entendre non pas ce qu'on n'est pas capable d'entendre, mais ce qu'on ne veut pas entendre et ce dont, pour ne pas l'entendre, et ce que, pour ne pas avoir à l'entendre, on tient pour opportunément incompréhensible, si vous voulez. Or, ici, il n'y a rien à ne pas comprendre. Il est impossible de ne pas comprendre. Que dit Bergson quand il parle du philosophe qui n'arrive pas à formuler ce qu'il a dans l'esprit et qui, du coup, corrige sa correction et va de théorie en théorie, au fond, s'éloigne de son intuition originelle, à la manière dont le narrateur, lui encore, s'éloigne de cet émerveillement qu'il a quand il goûte une madeleine en la regoûtant plusieurs fois. Voyez, il goûte, puis il regoûte, puis il regoûte, et le plaisir s'estompe. Comment faire pour maintenir vivace ce plaisir-là? Comment faire? Ce que Bergson décrit, c'est la supériorité de l'art sur la philosophie, peut-être, c'est-à-dire de l'interprétation sur le commentaire. Ce que nous faisons, c'est nous commentons, mais aucun commentaire n'arrive au talon de la lecture de ce texte, en particulier quand c'est Georges Claes qui le lit. Mais aucun commentaire n'arrive au talon de la lecture, c'est-à-dire de l'interprétation. Au fond, on se casse la tête, on creuse à l'infini, on peut multiplier les remarques, les digressions, les alinéas sur un texte, mais on n'arrivera jamais, on ne se rapproche pas. C'est une illusion, pardon, de croire qu'on se rapproche du texte en le commentant. En vérité, on ne fait que s'en éloigner. Voilà.
Mais vous vous souvenez, on a parlé, je ne sais plus exactement quand, mais lorsqu'on parlait de Plotin et... Je me souviens avoir dit « Oh là là, c'est compliqué, j'y comprends rien ». Il y a parfois des commentaires qui mettent en valeur le texte en montrant sa simplicité. Et je pensais au commentaire de Pierre Hadot sur Plotin qui s'appelait « La simplicité du regard ».
Bien sûr, mais c'est un commentaire. Alors le livre de Pierre Hadot, « La simplicité du regard » sur Plotin, est un grand livre. Parce que c'est un livre qui donne à éprouver de l'intérieur la pensée de Plotin. Il est plotinien dans l'âme. Et c'est avec l'âme tout entière, comme dirait Platon, qu'il est converti à Plotin et qu'il nous convertit à Plotin. C'est que il y a une forme de pas d'intransigeance, mais d'absolu, au fond, dans la dévotion à la pensée d'un philosophe. C'est de cette manière-là qu'on la donne bien à entendre. Et d'ailleurs, ce livre, le livre de Pierre Hadot, qui est la meilleure introduction à Plotin, à ma connaissance, avec peut-être les textes de Gerfagnon sur Plotin, ces grands lecteurs de Plotin ont ceci d'extraordinaire que toute leur science culmine dans l'oubli de la science au profit de l'émotion. Et ça, c'est Bergson. C'est Bergson, c'est Plotin, c'est Pascal, c'est Spinoza. C'est-à-dire que ce sont des philosophes qui tendent, pour Spinoza, vers la science intuitive, pour Bergson, vers une façon virginale de voir, d'entendre et de penser, pour Pascal, vers la simplicité du cœur, pour Plotin, vers l'unité retrouvée. Toutes ces sciences, ces philosophies magnifiques, ces édifices extraordinaires, qui culminent dans des fines pointes, des finissimes pointes, proprement indicibles, littéralement indicibles, parfois incompréhensibles, ce que Spinoza dit de la science intuitive, un lecteur strictement matérialiste de Spinoza n'y comprend rien. Toutes ces sciences qui culminent là-dedans ont besoin de la médiation de l'intelligence pour en venir là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas oublier un savoir qu'on n'a pas acquis. Il faut travailler, il faut apprendre, il faut se prendre la tête, il faut que la lampe sue. Il faut souffrir pour en venir à cette ingénuité retrouvée. Et c'est en cela que le destin de la philosophie peut être poétique. C'est en cela, la candeur est au bout du chemin. Et pourtant, elle a l'air natif, elle a l'air initiale. Mais en réalité, ce début est un recommencement auquel on ne parvient qu'après... Pour Gerfagnon, une accumulation invraisemblable de connaissances. Pour Bergson, des livres magnifiques et complexes. Et ainsi de suite. Pour Plotin, des Énéades dont certaines sont littéralement incompréhensibles. Pour Spinoza, l'éthique. Et le deuxième genre de connaissances, c'est pas peu de choses. Il faut s'accrocher pour le lire et pour le comprendre un peu. Il y a un moment où les grandes philosophies remplacent l'explication par la compréhension. C'est-à-dire la connaissance objective par... Il faut quand même dire ce mot, hein, ce que Bergson, ici, appelle l'intuition. C'est-à-dire la coïncidence miraculeuse d'une recherche inquiète et d'une trouvaille joyeuse. C'est le contraire, l'intuition, c'est le contraire de l'intellectualisme. Parce que ça n'est pas une science des causes, l'intuition. Ça n'est pas une science des causes selon laquelle on devrait concevoir avant de parler, délibérer avant de décider, décider avant d'agir. Non, pour Bergson... Le philosophe de la durée, ce qu'il appelle la durée, c'est l'idée que tous nos actes sont contemporains les uns des autres, que le réel et le possible, comme l'existence et l'essence, jaillissent ensemble, dans le même acte. On dit souvent qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps, mais on peut faire une infinité de choses en même temps. Il suffit de vivre pour cela. Vivre, c'est faire une infinité de choses en même temps. Il y a chez Bergson un refus paradoxal de toute antériorité. C'est vraiment le philosophe du présent. Pourtant, c'est le penseur de la mémoire. Mais cette mémoire ne vaut que si elle est recyclée dans un présent vivace. C'est le philosophe de... Il refuse l'antériorité. Il fait valoir la préséance de l'acte sur la puissance. De la même manière, si vous voulez, pour le dire vite, hein, qu'on ne chercherait pas si nous n'avions pas déjà trouvé, comme dit Pascal... Il le fait dire à Christ, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. De la même manière, il faut chercher pour trouver, mais on ne chercherait pas si on n'avait pas déjà trouvé. Eh bien, la recherche est à elle-même sa propre fin. Et Bergson, Gerfagnon, Plotin, Jankélévitch, Spinoza, Nietzsche, Pascal, déploient tous, et c'est cette belle famille de pensée, déploient tous le mystère d'une méthode qui est immanente, à l'objet, à la recherche qu'elle se donne, d'une écriture qui est comptable du rythme de la pensée et de l'objet que la pensée se donne.
Un philosophe digne de ce nom n'a jamais dit qu'une seule chose. Encore a-t-il plutôt cherché à la dire qu'il ne l'a dite véritablement. Et il n'a dit qu'une seule chose parce qu'il n'a su qu'un seul point. Encore fût-ce moins une vision qu'un contact. Ce contact a fourni une impulsion. Cette impulsion, un mouvement. Et si ce mouvement, qui est comme un certain tourbillonnement d'une certaine forme particulière, ne se rend visible à nos yeux que parce qu'il a ramassé sur sa route, il n'en est pas moins vrai que d'autres poussières auraient aussi bien pu être soulevées et que c'eût été encore le même tourbillon. Ainsi, une pensée qui apporte quelque chose de nouveau dans le monde est bien obligée de se manifester à travers les idées toutes faites qu'elle rencontre devant elle et qu'elle entraîne dans son mouvement. Elle apparaît ainsi comme relative à l'époque où le philosophe a vécu. Mais ce n'est souvent qu'une apparence.
Le philosophe eût pu venir plusieurs siècles plus tôt. Il aurait eu affaire à une autre philosophie, à une autre science. Il se fût posé d'autres problèmes, il se serait exprimé par d'autres formules. Pas un chapitre, peut-être, des livres qu'il a écrits n'eût été ce qu'il est. Et pourtant, il eût dit la même chose.
Vous avez parlé tout à l'heure d'une émission que vous avez faite en 2003 avec Gère Fagnon et qui s'appelait la beauté du geste.
Oui.
Et justement, la pensée dans ce texte est montrée comme un geste.
Oui.
Et c'est ce qui m'a frappé en écoutant Georges.
Un geste, et on pourrait presque dire une geste, voyez, oui. Au sens de la geste. C'est magnifique ce texte. D'abord, là pour le coup, c'est vraiment révolutionnaire. C'est-à-dire que, alors que on imagine déjà que la philosophie est la science de tout, qu'on peut dire des tas de choses différentes, et qu'un philosophe embrasse une réalité infinie et dit une infinité de choses. Bergson rappelle à l'évidence qu'une vraie philosophie, une bonne philosophie, n'est jamais qu'une façon de tourner autour d'une seule intuition. D'une intuition à laquelle on donne sa chance. C'est l'intuition qu'éprouve l'écrivain, par exemple, quand un roman fermente en lui et qu'il note des choses qui apparemment n'y trouvent pas leur place, mais dont il s'aperçoit. Après coup, une fois qu'il les a notées, qu'elles s'inscrivent miraculeusement dans une sorte d'unité vitale, si vous voulez. L'unité dont il parle, cette intuition unique, l'unité de cette intuition, elle est vitale, elle n'est pas logique. Une unité logique, c'est l'enfance de l'art, il n'y a rien de plus simple. Vous vivez, vous passez votre vie, vous arrivez des aventures, vous avez le concours de l'école, faites des enfants, si, ça, etc. Vous vivez, vous vieillissez, vous mourrez, juste avant de mourir, vous dites là, voilà. Vous rassemblez toute votre existence en lui donnant les contours flatteurs d'un destin et vous dites, voilà, c'était mon destin. Vous donnez à tout ça une unité logique. Ça s'est passé comme ça. Voilà, donc c'était mon destin. Vous donnez à tout ça, après coup, une unité logique. Tout autre est la façon de vivre dont parle Bergson, c'est-à-dire l'unité non plus logique, mais vitale. L'expression d'unité vitale est employée par Proust pour parler de la musique de Wagner. Il parle d'une unité vitale et non logique, pourquoi pas. L'unité vitale consiste à ne pas regarder son existence après coup, c'est-à-dire au soir de la vie, mais à être le contemporain du mouvement par lequel nous sommes vivants, à éprouver ce mouvement-là. Or, en philosophie, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'un philosophe ? Un philosophe, c'est quelqu'un qui a une intuition, non pas un système. Parce qu'un système, c'est très facile de faire entrer la totalité du monde dans un système. Vous êtes marxiste, faites entrer le monde entier dans votre système. Vous êtes hegélien, pareil. Vous êtes kantien, pareil. Il n'y a aucun problème. Kant un peu moins quand même, parce que Kant ménage quelques portes de sortie, quelques trouées vers l'inconnaissable, si vous voulez, qui sont finalement assez reposantes quand on fréquente trop Marx ou Hegel, qui ont le goût de nous enfermer dans une totalité ordonnée. Un système, c'est facile, un système cohérent, impeccable, qui viendrait après coup résumer ce qui semble un chaos en y voyant un ordre secret. C'est l'enfance de l'art, c'est la science. Il n'y a rien de plus intelligent, c'est-à-dire il n'y a rien de plus facile, en définitive. Rien de plus accessible, pour le coup. Tiens, voilà, là, ça, pour le coup, ça demande une pédagogie, pour rendre les choses accessibles. Ça autorise d'ailleurs la simplification. La philosophie vivante ou vibrante dont parle Bergson est une philosophie qui n'a pas besoin d'élaborer ou de prévoir ou d'organiser tous les éléments qui vont s'installer en elle à la façon dont on organise un appartement ou une pièce vide en imaginant où on mettra les fauteuils, les canapés, les chaises et le lit et la kitchenette, si vous voulez. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a deux définitions de l'ordre chez Bergson. Il y a l'ordre de celui qui range sa chambre et puis il y a l'ordre génial de l'improvisateur ou l'ordre génial de la 9e symphonie de Beethoven, par exemple. C'est l'exemple qu'il prend, je crois. C'est-à-dire, c'est un ordre spontané. C'est un ordre qui est compatible avec l'idée d'un jaillissement. C'est le véritable ordre. De la même manière qu'une conversation improvisée est une conversation qui, après coup, peut avoir une structure, où l'on peut trouver une structure. Un livre écrit est un livre dont on peut repérer le plan et voir les intentions de l'auteur. Mais quand on a repéré les intentions de l'auteur, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'on n'a pas dit exactement ce qui a échappé à l'auteur et qui forge l'unité, c'est-à-dire ce qui, dans le livre, palpite à l'insu même de celui qui lui donne le jour. C'est cela que Bergson pointe.
C'est la flamme et le papillon qui se brûlent les ailes en s'y approchant, comme dit...
Oui, parce que le papillon tourne autour de la flamme, et il est en position de touriste. Il la regarde. Et il voudrait la sentir de plus près, c'est-à-dire il en a marre des menus touristiques, le papillon, si vous voulez. Il voudrait aller dans une petite austérie vénitienne à l'ancienne, boire du vrai vin blanc vénitien, manger des calamars vénitiens ou des supions à l'encre tels qu'on les fait dans tel endroit de Venise uniquement. Il voudrait vivre les choses un petit peu de l'intérieur. Le problème du papillon, qu'il soit vénitien, touriste ou quoi que ce soit, le problème du papillon, c'est que s'il touche la flamme, il se brûle les ailes. Donc comment faire pour être à l'intérieur de la flamme sans se brûler les ailes? Comment faire pour être dans une pensée sans être consumé par elle? Et qu'est-ce que ça veut dire se brûler les ailes? Ça veut dire qu'il y a un moment, quand on lit les philosophes, faut se taire. Faut arrêter avec les bavardages, avec les machins, avec les effets de manche, avec les émissions de radio, etc. Il y a un moment, il faut se taire. Il faut renouer avec ce silence merveilleux, ce silence bienfaisant d'une unité qui se déploie et dont on devient le contemporain parce qu'on ne l'a pas recouverte de nos propres mots, de notre propre lexique, de notre propre langage. Ça a l'air un peu éthéré, si vous voulez, ou ineffable, ce qu'on vous raconte là. Mais, vous voyez, Bergson a une métaphore très belle. Il dit... D'autres poussières auraient aussi bien pu être soulevées, c'eût été encore le même tourbillon. Quelle que soit l'époque où vous écrivez, j'ai pu parler indifféremment de Nietzsche, de Plotin, de Jankélévitch, de Bergson, de Spinoza. Ce sont des siècles différents, ce sont des préoccupations différentes, ce sont des époques différentes, ce sont des opinions parfois différentes. Mais il y a une communauté d'intuitions qui, comme une catastrophe géologique, se reproduit. Traverse les époques, produit des gémellités inattendues et surtout permet de comprendre que l'histoire des idées n'a rien de linéaire et que la philosophie ne fait pas de progrès. Elle ne fait que revenir ou revisiter un certain nombre d'intuitions, mais c'est un nombre fini.
Oui, d'ailleurs, c'est un peu le paradoxe que pose Bergson à la fin du texte qu'on a entendu, parce qu'il dit que venu à une autre époque, le philosophe se fut posé d'autres problèmes et pourtant il lui dit la même chose.
Ouais.
C'est un petit peu difficile à comprendre.
Non, c'est simple en fait, parce que non, c'est moins que simple, c'est facile, disons, c'est déjà ça. Vous voyez, quand on vous dit c'est le truc un peu journalistique de ce qui compte, c'est ce que Leibniz aurait à nous dire aujourd'hui. Quel étrange narcissisme, quelle étrange myopie, si vous voulez. Quel étrange désir de vouloir à tout prix acclimater une philosophie à l'époque à laquelle nous vivons, comme si notre époque était totalement singulière. D'abord, c'est ne pas voir que si la philosophie de Leibniz est particulièrement adaptée à notre époque, et à notre époque seulement, ça veut dire qu'elle cessera de l'être une fois que notre époque sera passée. Quand ça reste à voir. Et surtout, c'est vraiment une façon de rabattre l'or sur le plomb, alors que quand il dit « un philosophe aurait pu venir plusieurs siècles plus tôt, il aurait eu affaire à une autre philosophie, à une autre science, il se fût posé d'autres problèmes et pourtant il eût dit la même chose », ce qu'un philosophe a de commun avec toutes les époques, tous les temps, et la raison pour laquelle il faut arrêter de demander en quoi c'est actuel ou moderne de lire tel ou tel philosophe, c'est ce qu'un philosophe peut avoir d'intempestif, d'intemporel. La façon dont un philosophe peut nous élever au-dessus de la déficience, justement, de notre époque, ou de notre tout petit présent, de notre actu. Ce qu'un philosophe... Les philosophes réussissent à faire cela quand ils posent des problèmes qui ne sont pas propres à notre époque, mais qui sont propres à l'humanité de l'homme, tout simplement. Et c'est cela que Bergson dit quand il dit qu'il eût dit la même chose. Au fond, Spinoza et Bergson, qui sont quasiment jumeaux, en vérité, malgré les apparences. On verra comment, peut-être, si on a le temps de le faire. Spinoza, Bergson, parfois Platon, Plotin, sont des philosophes qui ont parfois des intuitions communes qui leur échappent, qui sont plus fortes qu'eux, mais auxquelles ils ont le génie de donner le jour. Autre vocabulaire, autre lexique, autre langue, autre façon de le dire, autre objet, autre exemple, autre métaphore, et pourtant, c'est la même intuition. Et c'est ça qui est formidable. C'est la même intuition, c'est pas la même idée. Parce qu'une idée a l'abstraction, a une abstraction qui la rend indolore, si vous voulez. Si je vous parle d'universel, par exemple, vous avez une idée, l'idée d'universel, cette idée-là est d'une indolore abstraction. Elle s'adapte à tout. Il n'y a aucun problème. Elle s'adapte à tout parce que c'est un ectoplasme, l'idée. En revanche, une intuition, ce n'est pas qu'elle s'adapte à tout, c'est qu'elle respire tout. Elle donne tout à respirer, à sentir de l'intérieur. La contrepartie, c'est qu'elle est informulable. C'est que les mots n'y suffisent pas. Mais elle donne le jour à des systèmes qui, eux, sont bien palpables, sont bien sensibles, bien perméables. Si vous voulez, une intuition philosophique, c'est comme l'homme invisible. Ne me dites pas que vous n'avez pas vu l'homme invisible. Ne le dites pas, même si c'est vrai. L'homme invisible a cette particularité d'être invisible, donc, et pour se faire voir, d'être recouvert de bandelettes. Donc on ne voit l'homme invisible que quand il est recouvert de bandelettes. Sa silhouette se découpe sur l'horizon quand il est recouvert de bandelettes. Sinon, on ne le voit pas, il est invisible. Bon. Les bandelettes, ce sont les poussières dont parle Bergson. Et l'invisibilité qui préside à la forme des bandelettes. Les bandelettes auraient une autre forme si l'individu avait un autre corps. Donc elles seraient disposées différemment si l'individu avait un autre corps. Mais elles sont disposées de cette manière-là. La source vive de la forme que prennent les bandelettes, c'est-à-dire les poussières qu'on soulève, ben c'est le tourbillon dont parle Bergson, c'est l'invisibilité elle-même. Et c'est en cela... Alors, il y a indicibilité chez Bergson, on n'a jamais réussi à le dire et c'est pourquoi on a parlé toute la vie, il y a invisibilité dans le cas de l'homme invisible, mais au fond, ce sont une intuition, c'est ce qui se donne à sentir par son inscription dans la matière, par son inscription dans la matière d'une époque et par son adaptabilité à d'autres époques. Précisément, à d'autres époques, malgré des folklores différents. Au fond, les vocabulaires, les langues, les modes, les folklores, tout ça, c'est la poussière. Ce qui compte, c'est le tourbillon. Et le tourbillon, il est commun. Et cette fraternité que nous avons avec des philosophes morts parfois il y a 2500 ans, cette fraternité, elle vient de là. Ça n'est pas une communauté d'idées, c'est une communauté d'intuition. C'est qu'ils ont exploré au plus profond, le plus profondément et plus profondément que nous tous, ce que nous avons de plus humain, c'est-à-dire ce qui en nous ne passe pas. Ce qui en nous demeure, ce qui en nous est plus vaste, plus large et plus intéressant que nous. C'est ça, une intuition.
Dirait Bergson lui-même, ça nous mènerait peut-être trop loin de parler de Spinoza aujourd'hui.
Oui, mais on va le faire.
Mais tout de même, on va le faire, voilà. Ouais, comme lui, il le fait finalement, d'ailleurs. Je ne pense pas être en mesure d'expliquer les différences entre Spinoza et Bergson, même si des spécialistes disent qu'il y a une irréductible différence entre les deux. Mais on peut avoir justement l'intuition de leur ressemblance.
Ouais.
Et c'est ça qui...
C'est ça qui compte.
C'est ça qui compte.
On va écouter le texte.
Je laisserai de côté Spinoza. Il nous entraînerait trop loin. Et pourtant, je ne connais rien de plus instructif que le contraste entre la forme et le fond d'un livre comme l'Éthique. D'un côté, ces choses énormes qui s'appellent la substance, l'attribut et le mode, et le formidable attirail des théorèmes avec l'enchevêtrement des définitions, corollaires et scolies, et cette complication de machinerie et cette puissance d'écrasement qui font que le débutant, en présence de l'Éthique, est frappé d'admiration et de terreur, comme devant un cuirassé du type Dreadnought. De l'autre, quelque chose de subtil, de très léger et de presque aérien, qui fuit quand on s'en approche, mais qu'on ne peut regarder, même de loin, sans devenir incapable de s'attacher à quoi que ce soit du reste, même à ce qui passe pour capital, même à la distinction entre la substance et l'attribut, même à la dualité de la pensée, de l'étendue. C'est... Derrière la lourde masse des concepts apparentés au cartésianisme et à l'aristotélisme, l'intuition qui fut celle de Spinoza. Intuition qu'aucune formule, si simple soit-elle, ne sera assez simple pour exprimer.
C'est la différence entre matière et manière dont on a déjà parlé, qui est patente chez Spinoza.
Tout à fait. C'est la différence entre matière et manière. La matière est objectivement différente. Bergson et Spinoza n'ont apparemment rien à se dire. Et Bergson lui-même, et ça c'est extraordinaire, Bergson lui-même dit « Les conclusions de Spinoza m'ont toujours paru opposées aux miennes et pourtant c'est dans une lettre à Jankélévitch qu'il écrit. » Il dit ceci exactement. Il parle du texte de Jankélévitch donc sur lui-même, sur sa philosophie. Bergson a lu le texte de Jankélévitch, ça date du milieu des années 30. Et à la fin du texte de Jankélévitch, l'introduction à la pensée de Bergson, Jankélévitch fait tout un chapitre sur la communauté d'intuition entre Bergson et Spinoza. Et Bergson écrit à ce moment-là à Jankélévitch et il lui dit « J'ai particulièrement remarqué le passage concernant Spinoza. Je crois vous avoir dit que je me sens toujours un peu chez moi quand je relis l'éthique et que j'en éprouve chaque fois de la surprise. La plupart de mes thèses paraissant être, et étant effectivement dans ma pensée, à l'opposé du spinozisme. » Bergson a été enrichi lui-même par la lecture de cet élève exceptionnel qu'était Vladimir Jankélévitch, a compris lui-même la raison pour laquelle il se sentait chez lui dans ce système, l'éthique, qui pourtant n'a absolument rien à voir, qu'il compare à un cuirassé, dans ce système qui pourtant n'a vraiment, absolument, objectivement, rien à voir avec sa façon de penser, en apparence, de l'extérieur, à la façon touristique, si vous voulez. Mais en réalité, les deux sont tout proches. Il nous reste peu de temps, Paola, mais je voudrais juste dire en peu de mots, pour vous dire, non pas pour faire de l'histoire des idées, encore que, juste pour dire à quel point une communauté d'intuition transcende la disparité des méthodes et à quel point la manière l'emporte sur la matière, justement. À première vue, Spinoza est un géomètre. Donc, il n'y a pas de problème. Bergson est un ennemi de la mathématique ou des prétentions de la mathématique à embrasser la totalité du réel. Or, Spinoza semble être l'ambassadeur de cette prétention quand il explique que on peut parler de tout comme s'il était question de lignes, de plans et de solides. Mais, en vérité, tout ce qui existe, dit Spinoza, existe en vertu d'une nécessité éternelle. De sorte que, chez Spinoza, il est absurde de se demander quand la nature a commencé d'exister. Et Bergson le rejoint sur ce refus d'une création absolue. Ça, c'est le premier point commun. Le deuxième point commun, c'est que chez Spinoza, tout est mathématique. Chez Bergson, tout est vie. Mais Spinoza se sert de la mathématique pour dissiper les faux problèmes. Bergson se sert de ce qu'il appelle la vie, c'est-à-dire la simplicité d'une intuition, pour dissiper ce qu'il appelle les pseudo-problèmes. Chez Spinoza comme chez Bergson, il n'y a pas de vide. Ils disent l'un et l'autre le néant du néant. Ce sont des penseurs de la pleine positivité, de la pure positivité. Chez Spinoza comme chez Bergson, tous les préjugés relatifs au bien et au mal, au beau et au laid, à l'ordre et au désordre, à la vertu et au péché, sont l'effet de nos plaintes. L'effet d'un anthropocentrisme, celui qui prend ce qu'il éprouve pour une valeur absolue. Or, chez Bergson, c'est exactement la même chose, car chez Bergson, le choix des arguments est toujours postérieur à une décision initiale. Chez Spinoza, on s'émerveille comme des sots et on déteste comme des fous. Chez Bergson, quand on regarde un phénomène et qu'on le trouve extrêmement compliqué, par exemple, incroyablement compliqué, en vérité, c'est l'intelligence qui se contemple elle-même, si vous voulez. On trouve quelque chose de compliqué parce qu'on imagine que cette chose, un phénomène naturel, par exemple, on dit c'est fou ce que c'est compliqué. Le corps humain, par exemple, on dit c'est fou ce que c'est compliqué. Mais pourquoi dit-on c'est fou ce que c'est compliqué? Parce qu'on fait comme si le corps humain avait été fabriqué pièce par pièce, à la façon dont on conçoit un ordinateur, par exemple. Alors que ça ne s'est pas fait comme ça. Dieu, si j'ose dire, n'a pas placé les choses pièce par pièce. Il a donné le jour à une simplicité absolue qui se déploie en une complexité vibrante. Donc il y a, chez Bergson comme chez Spinoza, une façon d'être dupe de l'apparente complexité des choses, alors que cette complexité, elle est soluble dans une communauté d'intuition. De la même manière, chez Spinoza comme chez Bergson, c'est l'imagination qui nous conduit à parler d'ordre et de désordre. Chez Spinoza, c'est le nombre qui montre la lumière. Bergson, lui, il a des ballerines, hein, il danse. Mais au fond, c'est la même affaire. Dans les deux cas, il s'agit de rejoindre la lumière et ils contestent tous les deux l'idée que le plus important n'a pas encore commencé. Enfin, ils inversent tous les deux la causalité. Ils récusent toute forme de causalité finale, l'idée d'un but, au profit d'une causalité efficiente. Si vous voulez, c'est une même sagesse. C'est une intuition commune. Il y aurait une infinité de choses à dire, hein, sur les liens entre Bergson et Spinoza.
On pourrait même faire une émission. Raphaël, l'idée m'est venue.
Si vous voulez. Ça le mérite. On fera une émission sur les deux. Juste un point pour finir, parce que, encore une fois, les points communs sont innombrables, mais peu importe la liste des points communs. Ce qui compte, c'est la communauté d'une intuition. Et là où la communauté de cette intuition est avérée, notamment dans le chapitre que Jean Kelevitch consacre à Spinoza et Bergson à la fin de son étude sur Bergson, c'est que ce sont des philosophes de la joie. Les deux, ce sont des philosophes de la joie, c'est-à-dire l'idée qu'il existe une béatitude au-delà du plaisir et de la peine. Ce sont des philosophes de celui qui donne sans compter. Spinoza parle de béatitude. Il parle de cette allégresse que donne la béatitude, c'est-à-dire la science intuitive, l'art de connaître les choses dans leur ensemble et dans leurs détails, d'être à la fois autour de la flamme et à l'intérieur de la flamme, au même moment. C'est ce miracle, cette coïncidence de l'être et du savoir que Bergson ne cesse de décrire ou autour duquel Bergson ne cesse de tourner. Spinoza comme Bergson, c'est une phrase d'Épicure, considère l'un et l'autre que la joie et la philosophie sont filles du même instant. Ils ont en commun de rendre la liberté au lecteur.
Does he ask you to tell him about the other love you've had? And when you try to change the subject, does it make him mad? Does he say he's only being curious and
regardless, it won't make him furious, yeah. Some things are better left unsaid.
Merci Paola, merci Georges, Georges Clès, merci à tous. C'est la fin du Gai Savoir pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour y parler de Lucrèce, un retour en atomisme dans le Gai Savoir, c'est dimanche prochain. Un grand merci à Luc-Jean Reynaud, notre réalisateur bien sûr, et à Michele Maestro à la technique, à l'Israël naturellement, notre attaché de production. En attendant dimanche prochain, on vous retrouve sur internet, si le cœur vous en dit, à la page du Gai Savoir, où vous attendent téléchargements, bibliographies, clips, écoutes en ligne, etc. Et dans l'intervalle, retrouvez naturellement les nouveaux chemins de la connaissance, la philosophie inventive sur France Culture, tous les matins, de 10h à 11h, grâce à Adèle Van Rett. Et puis, de Bergson quand même, lisez et relisez l'intuition philosophique, ce passage merveilleux qui se trouve donc dans la pensée et le mouvement, un texte tout à fait étonnant qu'il n'est pas nécessaire de comprendre dans son intégralité pour en jouir pleinement, croyez-moi sur parole. Cette heure sur France Culture, dans un instant, du côté de chez soi, à lire et bien. You've got the world's greatest possession. Don't spoil it with foolish confession. Yeah. Some things are better left unsaid.